Armand de Marlembré. Je vous remercie pour la qualité de vos émissions et tout particulièrement pour celle de cette semaine. Elles ont fait ressurgir dans ma mémoire des moments privilégiés passés avec mes enfants et des amis au col du Bonhomme, que nos amis alsaciens ont l'habitude d'appeler les mamelons des Vosges. Je me souviens des balades en ski de fond en forêt. Je me souviens de la neige abondante et fraîche. Je me souviens des traces d'animaux sauvages qui nous précédaient. Encore une fois, merci pour vos émissions et cette Madeleine de Proust. Au revoir.
Oui, Chloé de Besançon dans le Doubs. Dites-moi, dans les fermes vosgiennes, tout le monde, il est bon, tout le monde, il est gentil. J'ai adoré le blanc significatif quand la journaliste a demandé pourquoi les veaux étaient séparés de leur mère. Et là, les bons agriculteurs ont noyé le poisson, du moins essayé. Dommage, pas convaincant. Nous ne sommes pas dupes. Une question, quel autre mammifère se voit retirer son bébé 24 heures après sa naissance? Il n'y a vraiment pas beaucoup de respect pour ces animaux. Au revoir.
Bonjour, c'est Alain Atone. Donc, j'appelle pour une suggestion pour cet hiver. C'est le plateau de Bourgard dans les Aravis, près d'Annecy, où il y a de gros problèmes en ce moment de retenue collinaire, avec une lutte en ce moment qui s'organise pour les canons à neige, pour les agriculteurs. Mais voilà, ce sont des retenues d'eau dans une réserve Nature à 2000. Donc, ce serait un endroit très intéressant, avec de l'agriculture, du ski de fond, du ski de piste, de nombreux thèmes à aborder. Au revoir.
Oui, bonjour, c'est Ophélie de Paris. Je viens d'entendre un monsieur qui traite les Parisiens de bobos. Alors, je voulais simplement dire que ça commence à bien faire, que des bobos, ben, y en a partout. Trop, c'est trop. Hein. Qui vienne vivre à Paris verra si les bobos, hein, avec ce qui se passe, la saleté et le bruit surtout, et la pollution. Allez, bonne journée à tous.
Alain, de Rodez en Aveyron, un département largement excédentaire en électricité renouvelable grâce à l'hydraulique. 13% de la production électrique française vient de l'hydraulique. Une énergie bon marché et verte, 6 fois moins chère que le nucléaire, et pourtant sous-utilisée, car EDF ne s'en sert qu'en complément du nucléaire lors des pointes de consommation. Pourtant, le futur de nos énergies renouvelables ne passe-t-il pas forcément par l'optimisation de nos ressources hydrauliques, bridées aujourd'hui par le lobby nucléaire? La Terre au carré pourrait-elle mener son enquête?
Bonjour, bon, moi, je viens d'écouter votre émission, je suis à La Réunion, donc nous on va rentrer dans l'été, alors je vous suggère de venir vous réchauffer ici, venir passer l'hiver en été. À bientôt.
Le répondeur de La Terre au carré, 01 56 40 45 45.
Rechercher la vie ailleurs dans l'univers. L'exobiologie est une science qui étudie les processus géochimiques et biochimiques qui peuvent amener à l'apparition de la vie et à son évolution. Et pour exercer ce métier, eh bien, il faut se rendre dans les lieux les plus extrêmes de la planète ou bien carrément envoyer des robots sur des planètes dont le passé ressemble beaucoup à celui de la Terre. Et c'est par exemple dans les déserts de l'Amérique du Sud, comme à Atacama, que l'on peut se rendre pour comprendre les mécanismes à l'œuvre dans l'apparition de la vie ou bien sur Mars, pour explorer le passé lointain de la planète rouge. Bonjour Nathalie Cabrol.
Bonjour.
Vous êtes astrobiologiste, vous travaillez aux États-Unis puisque vous êtes la directrice du centre de recherche Carl Sagan de l'Institut SETI qui s'occupe de chercher la vie ailleurs que sur Terre et vous publiez Voyage aux frontières de la vie. C'est aux éditions du Seuil. Vous allez donc nous expliquer comment vous menez vos recherches aujourd'hui sur cette question. Et je signale aux auditeurs que l'émission étant aujourd'hui enregistrée, nous ne pourrons pas recevoir vos messages comme d'habitude. Camille Crenier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
De retour des Vosges, Camille passe au vert à 14h30.
Avec une petite allitération aujourd'hui. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Les serpents qui partent faire dodo. L'hivernage commence.
Et voilà pour le sommaire de cette émission, réalisée par Valérie Ayestaraï, avec aujourd'hui Clément Berman à la technique.
Mathieu Vidard, La Terre au carré. sur France Inter.
Nathalie Cabrol, vous êtes donc l'invitée de la Terre au Carré cet après-midi. Vous êtes astrobiologiste, directrice du centre de recherche Carl Sagan de l'Institut SETI, c'est aux États-Unis, et vous êtes l'autrice de ce livre, Voyage aux frontières de la vie. C'est publié aux éditions du Seuil. De quoi s'occupe une astrobiologiste pour commencer ?
L'astrobiologie, c'est la recherche de la vie dans l'univers, et aussi de son origine et de sa distribution dans le système solaire et même au-delà, et puis peut-être de son futur sur la Terre et ailleurs.
Vous êtes nombreux à exercer cette profession dans le monde ou pas ?
Oui, c'est une discipline qui a vraiment évolué ces 20 dernières années. Elle a pris son essor avec toutes sortes de ramifications qui sont aussi bien sur les planètes du système solaire ou des exoplanètes que des recherches en environnement extrême.
C'est une discipline justement qui a beaucoup évolué avec les technologies qui se sont améliorées, parce que comment est-ce qu'on recherchait les origines de la vie il y a un siècle par exemple ? On s'intéressait déjà à cette question ?
Évidemment, savoir comment la vie est née, si quelque chose peut naître de rien, il y avait ces grandes discussions il y a quelques siècles. Les technologies évoluent, mais la question demeure. Qu'est-ce que la vie ? On n'a pas vraiment une définition pour qu'est-ce que la vie. Et c'est un paradoxe de l'astrobiologie. On part chercher la vie ailleurs quand on a encore besoin de formuler une définition sur Terre.
On peut chercher les origines de la vie justement sur notre planète aussi ?
Bien évidemment, puisqu'on est pour le moment le seul modèle d'une planète qui a développé la vie. Et il y a certainement des théories et des hypothèses que l'on poursuit. Mais pour le moment, c'est plus quelque chose qui va dans le sens de comprendre ce que j'appelle la plomberie de la vie, qui est son métabolisme, les conditions physiques, etc. Et puis il y a l'autre aspect de la question qui est un petit peu plus épistémologique, un peu plus philosophique, et qui est celui de la nature de la vie.
Alors, qu'est-ce qui reste justement des origines de la vie sur notre planète ? Alors, quelles sont les traces qu'on en a ?
Pas grand-chose, c'est pour ça qu'on a un petit problème, parce que notre planète est tellement dynamique, ce qui fait sa force, sa puissance et le fait que nous soyons là, c'est que nous avons une planète qui est encore très active, très dynamique, et qui, avec l'érosion, avec la tectonique des plaques, recycle régulièrement les archives géologiques, si vous voulez, des anciennes roches, des roches qui existaient au début de l'histoire de notre planète.
Et donc elle efface les traces, on peut dire des choses comme
traces, ça. Elle efface ses traces, il ne reste que quelques endroits au monde où nous avons des roches qui sont de l'ordre de 3,9 milliards d'années. La croûte terrestre s'est refroidie aux environs de 4 milliards 300 millions d'années. Donc peu d'endroits sur Terre. Ça réduit les probabilités de trouver quelque chose. Il y a des indices, mais il est très peu probable que l'on trouve les origines de la vie. Comment ça s'est produit sur Terre ?
Les plus anciennes traces, elles se trouvent où ? Alors sur notre planète, ces roches dont vous parlez là ?
Australie, Groenland, Canada.
Ouais. Et comment se fait-il que justement il n'y ait pas eu d'effet d'érosion ou de disparition de ces traces ?
Il y a de l'érosion, mais simplement ce sont d'énormes massifs et avec le temps, ils ont été un petit peu préservés par des changements. Ils n'ont pas été préservés des changements climatiques, mais disons qu'ils ont survécu parce que c'était des énormes massifs primitifs.
Ouais. Alors ce livre, Voyage aux frontières de la vie, c'est aussi le journal d'une exploratrice quand même, parce que c'est ça qui fait le sel de votre vie et de votre métier.
Oui, tout à fait. C'est un journal d'un voyage littéralement, c'est un voyage en plusieurs étapes, le voyage pour concrétiser un rêve, le mettre en route et ensuite se retrouver au milieu véritablement de ce rêve. Je dis quelque part dans le livre que je me suis sentie comme Mary Poppins. J'ai sauté sur la carte postale et elle s'est mise en mouvement. Mais c'est la persévérance qu'il faut pour arriver à manifester cette passion. Et puis d'un seul coup, tout arrive en même temps. Il y a cette abondance, je dirais, d'un seul coup, la mission martienne arrive et puis les expéditions. Mais c'est aussi, ça vient pas tout seul. Il faut pousser les choses, il faut provoquer un petit peu les opportunités. Et c'est ce voyage, non seulement un voyage personnel, mais aussi le voyage au cours des expéditions.
Alors c'est ça, c'est presque assez inattendu d'ailleurs de la part d'une scientifique, qui sont en général assez peu enclins à parler de leur vie privée, mais en tout cas vous parlez de voyage intérieur aussi en ce qui vous concerne.
Et je l'ai fait consciemment, parce que je me suis dit que des livres sur l'astrobiologie, il y en a d'excellents, mais qu'à l'heure actuelle, il est peut-être plus utile de donner aux gens des messages d'espoir et de persévérance, parce que, et en particulier les jeunes gens, encore que ce livre est absolument valable à n'importe quel âge, parce que j'ai pas de définition, et comme vous le savez, je suis mariée à quelqu'un qui est plus âgé que moi.
Quel âge a votre mari ?
Aujourd'hui, il a 101 ans.
Ouais.
Et on a 44 ans de différence d'âge, mais il continue d'avoir des projets, il continue de se projeter dans l'avenir. Et ça, c'est quelque chose à l'heure actuelle où les plus jeunes générations, les gens, ont un petit peu cette peur de l'avenir, et aussi se demandent comment ils vont pouvoir réaliser leur passion. Certains d'entre eux la cherchent. Et ce que j'essaye de dire, c'est que quoi qu'il arrive, il est important de donner une chance au lendemain.
Oui.
Parce que c'est en avançant qu'on crée ses propres opportunités.
Mais vous travaillez aussi aux États-Unis depuis maintenant longtemps. Est-ce que finalement, vous auriez pu écrire le même livre si vous aviez été une chercheuse française ? Parce que, encore une fois, rares sont les scientifiques qui se livrent comme vous le faites dans cet ouvrage.
Vous savez, ça fait partie du domaine des spéculations. Là aussi, j'ai dit quelque part dans le livre qu'il y a des situations pour lesquelles je ne peux pas dire ce qui se serait passé, mais je sais ce que j'aurais manqué si je ne l'avais pas fait. C'est un peu la même réponse ici. Je crois que ça aurait été extrêmement difficile. Le système américain est très différent. Je ne suis pas partie de Gettysburg, de la France.
Ouais.
J'avais très envie de rester à Meudon, je me trouvais très bien. Le fait est que la France ne m'a pas donné l'opportunité de rester et que si je voulais faire vivre ma passion, il a fallu que je m'exile. Et les Américains ne me connaissaient pas, ils m'ont pris pour ce que j'étais et ils m'ont simplement donné une chance.
Ouais. Il y a une certaine sévérité finalement dans ce que vous dites par rapport à la place aussi des chercheurs en France qui ne savent pas forcément, en tout cas la recherche ne sait pas retenir aussi ses talents et ses chercheurs.
Oui, ça, c'est un vrai problème. Et ça, c'est pas nouveau. Ça existe encore. J'entends la même chose aujourd'hui avec des jeunes gens. Dans mon domaine, dans ma discipline, et je peux parler que de ce que je connais, ça s'est un petit peu amélioré dans la mesure où maintenant la géologie planétaire, la planétologie existe, est implantée. Il y a des missions avec l'ESA, il y a des participations avec la NASA. Donc il y a quand même plus de possibilités pour les jeunes gens à l'heure actuelle. Mais quand il s'agit de trouver des positions, ça va bien quand vous êtes étudiant, quand vous êtes post-doc, mais quand il s'agit de trouver des positions, j'entends toujours le même discours. Il n'y a pas de position.
Mais on est vraiment plus heureux aux États-Unis en tant que scientifique ? Parce qu'on en a aussi une image peut-être un petit peu idéalisée, non ?
C'est un système extrêmement compétitif, très différent. Mais si c'est dans votre état d'esprit, vous pouvez être très heureux. C'est très dur, dans la mesure où il faut toujours se remettre en question. Mais moi, je prends ça comme un défi et ça nous permet de rester au top.
Nathalie Cabrol, vous parlez aussi de la place des femmes en sciences, parce qu'on va évoquer avec vous, évidemment, ces recherches que vous menez sur ces biomarqueurs, sur les traces de vie, avec deux terrains de chasse, je dirais, le désert d'Atacama et puis la planète Mars. Mais il y a aussi dans ce livre un message pour les femmes qui veulent s'engager en sciences. Ça, c'est extrêmement important. Vous avez fait un discours à l'ONU, je crois, à ce sujet. Oui. Et c'est vrai que très rares encore sont les femmes dans vos disciplines.
Ça s'améliore, mais ce que je dirais, c'est que le nombre de femmes qui entrent dans les disciplines scientifiques, et c'est pas spécialement l'astrobiologie, mais l'astronomie ou les métiers d'ingénierie, par exemple, il y a beaucoup plus de femmes qu'il n'y avait auparavant, qui font des études dans ces domaines-là. Le problème, c'est qu'à un moment donné, elles sont toujours confrontées à ce choix de maternité ou de poursuivre une carrière.
Mmh.
Et c'est là où on en perd beaucoup. Et il y a aussi peu de femmes qui continuent dans les diplômes, dans les disciplines qui correspondent aux diplômes qu'elles ont obtenus. Donc c'est là où il y a besoin de faire un effort. C'est là où on a vraiment besoin de trouver des solutions de société. Aujourd'hui, la part des hommes est beaucoup plus importante. Il y a beaucoup plus d'hommes qui, de leur plein gré, aident à élever les enfants tout petits. Mais c'est quand même pas une solution. Je veux dire, ça demande un sacrifice à chacun des conjoints. Et il est important qu'on trouve des solutions. Et ça m'a beaucoup impressionné quand j'étais à l'ONU de voir que c'est une question sur laquelle on se penche maintenant.
Ouais.
Mais il est grand temps parce qu'on perd une quantité invraisemblable de jeunes talents.
La Fondation L'Oréal, justement, avait demandé une étude à ce sujet pour l'opération Femmes en Sciences. On va écouter justement un état des lieux de la place des femmes dans la recherche.
Pour commencer, peut-être un chiffre. Aujourd'hui, une lycéenne a 3 fois moins de probabilité qu'un lycéen d'obtenir un doctorat en sciences. Et plus généralement, dans l'étude que nous avons menée pour la Fondation L'Oréal, on constate une sous-représentation encore criante des jeunes femmes dans la communauté scientifique internationale. Et depuis la fin des années 90, l'évolution des femmes dans la recherche n'a évolué que de 12%. Et elle ne représente que 29% des chercheurs dans le monde aujourd'hui. C'est beaucoup trop peu. L'écart se creuse extrêmement tôt, dès le choix du cursus universitaire, puisqu'en fait, les jeunes filles ne sont que 32% à choisir un cursus universitaire scientifique, alors que quand on regarde au lycée, filles et garçons sont dans des proportions comparables dans les cursus scientifiques et présentent des performances absolument identiques. Alors un autre élément ou phénomène intéressant, c'est dans le choix des domaines scientifiques, puisqu'en fait, les jeunes filles ont une très forte tendance à préférer les sciences de la vie au détriment des autres domaines. Et de ce fait, elles représentent 60% des populations de première année de cursus de médecine et seulement 20% des cursus de l'ingénieur. Alors tout ceci se répercute naturellement dans les organisations. À titre d'exemple, seulement 11% des plus hautes fonctions académiques scientifiques aujourd'hui dans l'Union européenne sont détenues par des femmes. Il reste donc un très long chemin à parcourir.
Nathalie Cabrol, un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre.
Non, ça correspond tout à fait à ce dont on parlait à l'ONU ou ailleurs. Et c'est exactement ce genre de choses qu'il faut faire, savoir retenir les jeunes femmes.
Ouais.
Et puis, surtout, plus que l'égalité, je dirais, essayer d'avancer vers l'équité. C'est pas la même chose.
Ouais. Vous n'aimez pas l'idée des quotas ?
Non, je l'aime pas du tout, parce qu'à ce moment-là, c'est créer un autre type de ségrégation et un autre type d'injustice. Pourquoi je préférerais prendre une femme alors qu'un garçon peut être aussi bien qualifié ou même mieux qualifié ? Ce que je veux, ce sont des gens de compétences égales, mais qui ont les mêmes chances.
Est-ce qu'il y a un problème aussi de modèle, tout simplement, auquel se référer ? Parce que si on prend les prix Nobel, par exemple, ils ont récompensé depuis leur existence, j'insiste, 3% seulement de femmes. Donc, c'est quand même aujourd'hui compliqué pour les jeunes générations d'avoir des exemples, non ?
C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, parce que simplement, il n'y avait pratiquement pas de femmes dans les sciences avant. Donc, à l'heure actuelle, les gens qui ont l'expérience et qui sont en âge d'avoir des prix Nobel font partie de cette génération qui est représentée par plus d'hommes. C'est aussi pourquoi je pense que d'écrire des livres qui montrent le cheminement personnel est important. Et c'est pour ça que je l'ai aussi écrit et que j'ai accepté de l'écrire de cette façon, parce que je veux leur montrer que, oui, c'est pas tout simple, mais c'est pas tout simple pour personne. Et qu'il faut surtout pas attendre que les gens vous déroulent le tapis rouge juste parce que vous arrivez. Ça va demander de la sueur et puis des efforts, mais ça vaut la peine.
Eh bien, de la sueur et des efforts, il y en aura dans un instant, puisqu'on va décrire, entre autres, vos plongées dans les lacs des volcans, par exemple. Nathalie Cabrol, Voyage aux frontières de la vie, ça paraît au seuil.
C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin, ne nous lâche pas la main. C'est la fin, le soleil au lointain, s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau à rougir comme un coquelicot. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo et te dire. C'est la fin.
C'était Juliette Armanet avec le dernier jour du disco.
La Terre au carré sur France Inter.
Les rovers ont été conçus pour prouver que Mars méritait d'être exploré malgré les risques.
Spirit et Opportunity ont bouleversé l'image qu'on avait de Mars. Quand on change de perspective en permanence, comme l'ont fait les rovers, c'est qu'on explore à la manière d'un être humain. Et ce n'était qu'un premier aperçu de Mars. On a découvert qu'il y avait eu de l'eau à la surface de Mars. Et de ce fait, on est obligé d'y retourner. On travaille à des missions complémentaires à la surface de Mars. Et si on fait tout cela, c'est grâce à Spirit et à Opportunity.
Voilà, Nathalie Cabrol, Spirit et Opportunity, évidemment, ce sont des rovers qui ont un sens particulier pour vous, comme vous le racontez dans ce livre « Voyage aux frontières de la vie » aux éditions du Seuil, avec une année 2003 qui était importante, parce que c'était le décollage justement de ces rovers en direction de Mars, et vous avez joué un rôle direct avec la mission Mars Exploration Rover, hein, c'est ça?
Oui, j'ai eu cette chance. En fait, c'est quelque chose qui a commencé à l'Observatoire de Meudon, ici, juste après ma thèse, une fois que j'avais terminé ma thèse qui s'occupait de l'évolution de l'eau sur Mars, je me suis dit, mais si l'eau coule, elle doit bien stagner quelque part. Et de manière intéressante, tout le monde s'intéressait à l'eau sur Mars, aux chenaux, etc. à l'époque, mais pas beaucoup de monde s'intéressait de savoir où est-ce qu'elle aurait pu stagner cette eau. Et donc, j'ai commencé à regarder avec mon mari si on pouvait voir des traces de lacs sur Mars. Et
donc,
bien
il fallait
évidemment
localiser un endroit en particulier sur la planète.
À ce moment-là, bon, il y en avait un en particulier qui était déjà un endroit que j'avais choisi pour ma maîtrise et qui était la vallée de Mahadim qui débouchait dans un énorme cratère d'impact qui s'appelait Guzev. Guzev nous a donné l'idée d'un principe parce que on travaillait à l'époque avec seulement les données de Viking et les données Viking, c'était les premières données de la surface, mais en même temps, elles avaient une faible résolution, c'est-à-dire qu'il y avait peu de détails, et la topographie était encore pire. Mmh. On avait très très peu d'altimétrie, et c'était impossible de faire des modèles hydrologiques. Le seul moyen de savoir que l'eau coulait dans un sens véritablement, ou convergeait quelque part, c'est de voir des réseaux de vallées converger vers un bassin. Et là, les seuls bassins dont on était sûr, c'était les bassins d'impact. C'était des grands trous dans la surface. Donc on a choisi ça pour commencer avec Edmond. Et bien entendu, Guzev, c'était le cas d'étude. 160 km de diamètre, une énorme vallée de 1000 km qui entrait à l'intérieur. Quelque chose qui ressemblait à un delta à l'époque, avec la résolution de Viking. Donc j'ai commencé à développer cette étude. Et puis il se trouve que en 1990, les Russes voulaient faire atterrir à l'époque un de leurs deux rovers. C'était des Marsocodes et les missions s'appelaient Mars 94 et Mars 96. Et évidemment, comme Guzev, c'était le nom d'un astronome russe. Pas seulement. Ils m'ont demandé de venir parce qu'à l'époque, j'étais la personne qui s'occupait de ça. À 27 ans, j'ai débarqué à l'Académie des sciences russes et puis j'ai fait une présentation en face de quelqu'un qui ressemblait étonnamment à Pierre Legrand. Très, très impressionnant. Mais ensuite, on sait ce qui s'est passé. L'Union soviétique a été démantelée et puis Barsoukov est décédé. Mais les Américains que je commençais à fréquenter un petit peu simplement par les conférences étaient avec moi en Russie et ont compris l'intérêt de Guzev. Un concours de circonstances a fait que le laboratoire où j'étais à Meudon fermait. J'avais pas vraiment où aller et j'avais une bourse de 9 mois. Et c'est là que un des chercheurs américains de NASA Ames m'a demandé si je voulais venir pour 9 mois pour passer mon postdoc. Et puis c'est là où j'ai développé l'étude de Guzev. On a continué et une fois qu'on avait un modèle bien bien développé, eh bien on a commencé à le présenter pour différentes missions. Il y en avait qui n'étaient pas adaptés. Pathfinder était trop petit comme rover pour cette mission, enfin pour ce site. Et puis ensuite, il y avait une mission d'un lander, un atterrisseur qui était prévu. Et puis comme on a perdu deux missions en 1999, d'un seul coup, le programme a été chamboulé. Et ça a été l'opportunité, sans jeu de mots, pour les rovers qui ont été mis en production très très rapidement.
Oui, ça a été vraiment très rapide.
En l'espace de 2 ans, c'est quelque chose.
C'est 2003 le décollage. Hein, donc
On envoie en 2001... un orbiteur qui est censé nous donner des informations pour le climat et qui est toujours là-haut. Du moment où on a choisi de remplacer le lander par ses rovers, il fallait choisir un terrain d'atterrissage, enfin deux, puisqu'on avait deux rovers.
Ouais.
Et à ce moment-là, la configuration de Guzev était non seulement favorable au rover que l'on avait, qui avait le potentiel pour rouler quand même sur de grandes distances, et puis surtout pour le thème de recherche et d'exploration, qui était celui de la caractérisation de l'habitabilité potentielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On voulait tout simplement savoir si les conditions d'environnement de Mars au début de son existence, enfin de son évolution géologique, étaient propices à l'évolution de la vie telle que nous la connaissons. À ce moment-là, c'est devenu parfait parce que un lac, c'est un endroit formidable pour la vie, et non seulement pour la vie quand elle est vivante, mais aussi quand les organismes meurent, ils tombent au fond. Et avec les sédiments qui recouvrent les organismes morts, ça crée des conditions qu'on appelle anoxiques, c'est-à-dire pas d'oxygène, ce qui permet la formation de fossiles.
Et donc, c'était le terrain pour Spirit, hein, en l'occurrence, oui. hein, le oui. terrain d'exploration de Spirit, oui. puisqu'Opportunity est arrivé également sur la planète Mars, mais pas au même endroit, hein, ça oui. faisait deux champs d'exploration. Et donc, ça a été aussi votre signature à vous sur la planète Mars, finalement.
C'est notre signature. Du moment où Spirit a été envoyé sur Gusev, du moment où la sélection de Gusev s'est faite, ça faisait pratiquement déjà 15 ans qu'on travaillait à comprendre ce qu'était Gusev. Ouais. Donc c'est déjà une longue période, comme je dis, la persévérance toujours avancée, parce que les premières missions n'étaient pas favorables, on aurait pu se décourager et dire ça suffit. Au contraire, on a persévéré, et en fait on a créé une discipline avec mon mari, qui est celle de ces cratères d'impact avec des lacs, et aujourd'hui, sur les 4 rovers qui ont été lancés par les Américains, 3 ont atterri dans, ouais. dans des cratères qui contenaient des lacs, et le dernier étant persévérance.
Persévérance, justement.
Nathalie Cabrol, ça fait quoi de voir un rover atterrir dans cet endroit que vous avez étudié pendant très longtemps? Ça doit quand même faire quelque chose, non?
Énormément d'émotions. En fait, et c'était un petit peu aussi, je dirais pas une déception, parce que on s'attendait à atterrir dans une plaine de lave. On l'avait choisi exprès parce que c'était plat et qu'il n'y avait pas de risque à l'atterrissage. Mais en même temps, on connaissait déjà le potentiel de Gusev. Ce qu'on espérait, c'est qu'on trouverait un affleurement suffisamment proche du site d'atterrissage. Mais il se trouve que vraiment, on a bien calculé notre coup parce que c'était tout plat et oui. vraiment très ennuyeux. Et pendant 6 mois, on a cherché en vain un affleurement. On n'en avait pas, mais on avait aussi une destination en tête qui était les Columbia Hill. Et pour le rover, pour un humain, ça aurait pris peut-être 2h30 de marche pour y arriver. Ça nous a pris 6 mois. Ouais. Pas simplement parce qu'on a fait que rouler, parce qu'on s'est arrêté, bien évidemment. Mais on y est allé quand même le plus rapidement possible parce qu'on avait l'hiver qui arrivait et Spirit et Opportunité avaient des panneaux solaires.
Et l'hiver martien, donc, pouvait être fatal.
Mortel.
Exactement. Qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce qu'il faut retenir, finalement, oui, de Spirit, en l'occurrence, sur la connaissance de la planète Mars?
Spirit, peut-être les gens l'ont moins en tête parce que on a avancé pendant 6 mois sur cette plaine qui était absolument pas tellement intéressante. On a appris des choses, mais c'était plus une valeur de connaissance pour nous les chercheurs. Qu'est-ce que ça fait que telle roche ait beaucoup plus de soufre que etc etc. Tandis qu'Opportunité est arrivé directement. Il a fait comme Obélix, il est tombé dans la marmite tout de suite. Et on avait devant nous, on avait un affleurement, on avait les sphérules d'hématite, mais dans le fond, dans l'arrière-plan. Spirit a été le premier site sur Mars où on a découvert enfin des carbonates à la surface. Mmh. Et les carbonates, c'était très important. C'est important pour l'histoire de l'eau, bien évidemment. Et le plus on en trouve, le mieux c'est. Mais Spirit reste le premier endroit où on en a trouvé à la surface. Et puis ensuite, bien entendu, à Home Plate, on a découvert le premier centre hydrothermal sur Mars. Et il y avait de manière évidente la présence d'énergie et d'eau, aussi des nutriments. Et tous les ingrédients pour le développement de la vie était présent en même temps dans cet endroit.
Mais quand vous dites centre hydrothermal, il ne faut pas s'imaginer une source avec de l'eau jaillissante partout.
Non, bien entendu. Elle était probablement jaillissante il y a 3,5 milliards d'années.
Donc ce sont les traces, au fond.
Sont les traces. Et il y a une magnifique photo de Spirit qui est probablement passée inaperçue pour la plupart des gens. Mais quand on l'a vu, on a compris immédiatement dans l'équipe scientifique. C'est cette photo dans le sol qui est le jour martien 156. Où les roues avant sont sur les Columbia Hill et les roues arrière sont sur la plaine de lave. Et là, vous avez deux mondes. C'est exactement comme si vous étiez assis sur la frontière entre le monde des dinosaures et le monde des mammifères sur Terre.
Voyage aux frontières de la vie, Nathalie Cabrol. Vous publiez ce livre au Seuil et vous êtes encore notre invitée jusqu'à 15h dans La Terre au Carré.
France Inter. La Terre au Carré.
Et c'est l'heure, bien sûr, de Camille Passauvert avec vous, Camille Cronier.
Et je sens qu'il y en a certains qui vont être soulagés. Les opiophobes, ceux qui ont une peur panique des serpents. Soulagés parce que nos amis rampants sont en train de s'installer pour roupiller quelques mois. Et oui, l'hivernage commence. Et Laurent Barthes, le directeur de la Société Herpétologique de France, les spécialistes des serpents, nous explique comment ça se passe. C'est assez fascinant.
À l'hivernage, c'est une étape incroyable chez ces espèces. Ils vont aller se mettre assez en profondeur ou à l'abri dans des pierriers et autres pour avoir vraiment une barrière thermique, un milieu qui va les protéger du froid. Ils ont tout leur métabolisme qui va se modifier et leur activité totalement ralentie. Ils sont pétrifiés par le froid Une petite différence quand même, qui n'est pas des moindres, avec les mammifères, ils n'ont pas besoin de faire des réserves pour entrer en hivernage. C'est vraiment leur rythme respiratoire cardiaque qui va se ralentir, plus du tout de mouvement, et du coup ils vont quasi pas consommer de réserves.
Voilà, pétrifié, plus rien ne bouge jusqu'au mois de mars, hein, jusqu'à ce que de belles journées reviennent en fait. Et là, ils feront remonter leur température corporelle et redémarrer la machine en s'étirant au soleil pour pouvoir ensuite se nourrir et se reproduire. 14 espèces de serpents en France métropolitaine sur les presque 4000 qu'il y a dans le monde. La majorité, ce sont des couleuvres. Les vipères, c'est 4 espèces, dont les célèbres aspic et péliade, qui sont désormais protégées comme les autres depuis cette année. Interdiction donc de les tuer, de les capturer ou de les déranger parce qu'elles sont en danger comme un reptile sur 3. Et voilà pourquoi.
Leur habitat notamment sont menacés. Donc à cause de l'urbanisation croissante, l'agriculture intensive, entre autres. Mais aussi, malheureusement, l'impact de l'être humain direct. On a trop tendance aujourd'hui, par méconnaissance et peur irrationnelle, à tuer un serpent parce qu'on est inquiet d'être en contact avec lui.
Ah là là, cette foutue peur du serpent qui ondule et du venin qui peut en sortir. C'est pour ça qu'il y avait le droit jusqu'à cette année donc d'en zigouiller quelques-uns, le venin pouvant être mortel, comme le rappelle la spécialiste Françoise Sercollet.
Les serpents, notamment les vipères, sont considérés comme des espèces qui sont potentiellement dangereuses. Il ne faut pas non plus minimiser le risque, même si ça fait une dizaine d'années qu'on ne déplore pas de mort en France. La dernière personne qui est décédée d'une morsure de vipère, c'était un herpétologue.
Des morts très rares, et 300 morsures par an environ, accidentelles, parce que ça ne fait jamais de mal de le rappeler.
Un serpent ne va pas vous courir après pour essayer de vous mordre. D'accord ? La première réaction d'un serpent, tel qu'il soit, c'est de fiche le camp. Un serpent ne mord qu'à partir du moment où il n'a pas le temps de fuir. Comme il ne peut pas vous balancer un coup de poing, un coup de pied, etc., qu'est-ce qu'il a à sa disposition ? Ses dents. Donc, il peut mordre. Donc, c'est une attitude de défense.
Et j'ajoute que le venin n'est pas forcément injecté à chaque fois. Les risques, donc, sont faibles alors qu'on est entouré de serpents, figurez-vous.
C'est ça qui est très drôle, c'est qu'on cohabite, qu'on le veuille ou pas, avec les serpents et depuis toujours. Il nous arrive régulièrement d'intervenir chez des personnes qui pensent pour la première fois avoir un serpent autour de chez eux. On se balade autour de chez eux, il y en a plusieurs et plusieurs espèces. Donc l'humain cohabite avec les serpents et tant qu'il ne le voit pas, il ne se sent pas en danger. Et c'est dès qu'il le voit qu'il a l'impression que le danger est apparu.
Alors vous n'en croiserez quand même pas en plein centre-ville, mais dès qu'il y a des jardins, des grandes étendues d'herbe, en gardant en tête quand même, à part quelques couleuvres aventurières, les serpents évoluent en général dans un rayon de 1 km maximum. Finalement, dit Laurent Barthe, on a plus peur de l'inconnu que de l'animal. Et sa collègue herpétologue Françoise Sercollet, qui travaille elle au Muséum National d'Histoire Naturelle, confirme et insiste pour casser les préjugés que notre imaginaire collectif a construit sur les serpents.
Ce sont des animaux absolument fascinants. Les serpents, mais c'est voilà, quand vous faites tomber donc les mythes, les légendes qui gravitent autour de ces espèces, vous vous apercevez que d'un point de vue écologique, mais également d'un point de vue biologique, ils sont absolument extraordinaires. Je ne veux pas forcer les gens à aimer les serpents. J'aimerais que les gens les respectent et les acceptent. Ça fait partie de notre écosystème, ça fait partie de notre patrimoine.
Et c'est aussi de tout cela qu'on parlait la semaine dernière, tous ces spécialistes et passionnés réunis à Lille au congrès annuel de la Société herpétologique de France, qui a fêté ses 50 ans. Bon anniversaire.
Happy birthday.
Parce qu'il y a encore beaucoup de travail.
La protection et la conservation des serpents, c'est l'enjeu des années à venir. On a pas mal travaillé sur les amphibiens ces dernières années, mais les serpents, c'est les oublier aujourd'hui. C'est les oublier parce que c'était les mal-aimés.
Ils espèrent donc qu'en plus de la loi, les mentalités vont évoluer pour qu'elles leur réveillent en 2022. Les serpents aient de plus beaux jours devant eux. D'ici là, on leur souhaite donc un bon hivernage.
Ayez confiance. Merci beaucoup Camille Cronier et Camille Passe au vert, à réécouter bien sûr sur la page de La Terre au Carré. Et dans un instant, la suite de notre exploration de la vie dans l'univers avec Nathalie Cabrol.
Yesterday. go. Keep yourself back. Keep on lying low.
James Blake, Life is not the same, et Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard, sur France Inter.
Ici au Chili, le désert d'Atacama est un lieu unique pour l'astronomie, avec des ciels dégagés, sans nuages. Si vous voulez chercher des objets très faibles, il faut des miroirs de plus en plus grands.
Il y a quand même un aspect, disons, romantique. Quand on regarde le ciel, évidemment, on se dit, qu'est-ce qu'il y a là-haut ?
Nathalie Cabrol, pourquoi Atacama ? Parce que c'est vraiment un terrain d'étude très important aussi pour vous, comme vous en parlez dans cet ouvrage « Voyage aux frontières de la vie » aux éditions du Seuil. Et c'est vrai qu'on peut faire vraiment une analogie avec la planète Mars, mais même dans la présence physique qu'on peut ressentir quand on est sur place à Atacama, parce qu'il y a cette couleur orangée qui fait qu'on pourrait presque se croire sur Mars. Hein.
Oui, c'est un monde de lave, c'est un monde, encore une fois, d'hydrothermalisme aussi, cette présence de l'eau et du feu en permanence. Aussi un endroit où le climat change très vite et en fait change plus rapidement que dans la plupart des autres régions du monde. Un monde où vous avez aussi beaucoup de rayonnement ultraviolet parce qu'on se trouve très vite dans les Andes et très haut. Ouais. Et donc il y a beaucoup, beaucoup de ces facteurs d'environnement qui sont très semblables à Mars il y a presque 4 milliards d'années.
Donc ce désert chilien extraordinaire qui procure beaucoup d'émotions. Enfin, je veux dire, c'est une expérience très particulière d'être à Atacama quand même. Hein.
Personnellement, j'ai toujours ce sentiment de fusion. C'est ce terme de spiritualité que j'utilise parce que d'un seul coup, on retrouve sa place sur notre planète. Ouais. On n'est plus séparé d'elle par la technologie nécessairement. On retrouve notre dimension qui, physiquement, est très petite. Il y a une énorme différence entre un être humain et un volcan de 6000 mètres juste à côté de vous. Mais en même temps, on n'est pas insignifiant. Ça veut dire que du moment où on se met en osmose avec l'environnement, on commence à le percevoir, on commence à comprendre des choses que normalement, si vous voulez savoir quel temps il va faire, s'il va y avoir du mauvais temps, une tempête, vous prenez votre téléphone et puis vous regardez quelle est la météo pour demain. Quand vous passez quelques jours dans le désert, vous n'avez plus besoin de faire ça. Vous savez, dès que le vent change, il y a quelque chose dans votre tête qui change et vous avez ce répondeur quelque part qui vous dit « il faut partir de là ». Sans même que vous sachiez pourquoi, vous savez que vous devez partir de cet endroit.
Il y a aussi ce lien au ciel quand même à Atacama. Il y a évidemment la beauté des étoiles, une clarté exceptionnelle. C'est donc un lieu d'observation privilégié pour les chercheurs. Mais c'est aussi une vision pour l'humain qui est extraordinaire, non ?
C'est complètement extraordinaire. D'abord, l'Atacama lui-même est assez bas en altitude, mais dès qu'on monte dans l'altiplano, on est tout de suite à 4300 mètres. Donc imaginez Un jour, en faisant un de mes premiers entraînements là-bas, avant de monter au Lican Cabourg, j'ai pris l'altimètre et j'ai réalisé que j'étais plus haut que le Mont Blanc. On fait ça sans
ce volcan dont vous parlez, il est à 6000 mètres.
Il est à 6000 mètres, mais c'était un entraînement avant l'ascension et on s'est retrouvé d'un seul coup à 4900 mètres. J'ai dit, tiens, je suis plus haut que le Mont Blanc.
Ouais.
Mais quand vous êtes là, ne serait-ce que dans l'altiplano, je parle même pas au sommet du Lican Cabourg, les étoiles sont beaucoup plus grandes. Mmh. Encore une fois, c'est ce sentiment de faire partie de quelque chose, de pas être extérieur.
De la Voie lactée, par exemple. Hein.
Oui.
Parce que c'est ça qu'on ressent à Atacama.
Oui, et en plus, comme on est dans l'hémisphère sud, vous avez deux autres galaxies, le petit nuage de Magellan et le grand nuage de Magellan, qui sont là, une densité d'étoiles absolument phénoménale aussi.
Ouais. Pourquoi ce terrain de recherche, alors, en ce qui vous concerne précisément, et ce volcan de 6000 mètres d'altitude, qu'est-ce qu'on va y chercher? Parce que c'est des conditions aussi qui peuvent ressembler à ce qu'a été la Terre à ses tout débuts?
C'est la Terre et c'est Mars, parce que Mars et la Terre étaient très semblables.
Ouais.
En fait, les organismes qu'on y trouve sont des organismes très primitifs. On y trouve des petites algues bleues et vertes, qui sont les mêmes organismes qui ont laissé les premiers fossiles sur Terre il y a 3 milliards et demi d'années, à Shark Bay, en Australie par exemple. Eh bien, quand on les étudie, on se rend compte qu'ils n'ont pas vraiment évolué, mais qu'ils ont une capacité d'adaptation qui est remarquable. C'est un petit peu le couteau suisse des micro-organismes terrestres, et c'est pour ça qu'on est là, parce qu'ils ont été tellement adaptables. Ce sont nos ancêtres lointains. Et donc, on les retrouve dans l'Atacama, où les conditions sont différentes de l'altiplano, mais ils ont des gènes, je dirais qu'ils allument ou qu'ils éteignent, je ne sais pas si c'est tellement le terme en français, mais enfin, qu'ils activent ou qu'ils n'activent pas, et ils sont capables de s'adapter à pratiquement n'importe quoi. Aujourd'hui encore, on ne sait pas pourquoi les organismes qui sont capables de s'adapter à un très haut taux de salinité dans le sol, comme dans le désert, sont aussi capables de s'adapter à un taux de radiation très fort. Mais quand on y pense, c'est aussi des conditions qui existaient au tout début de l'histoire de la Terre.
Alors, il y a ces plongées, racontez-nous ça, parce que c'est assez étonnant. C'est aussi quelque chose qui, finalement, a rejoint vos passions, c'est celle de la plongée sous-marine, et là en l'occurrence la plongée dans les lacs, mais des lacs d'altitude, des lacs volcaniques, donc dans des conditions très particulières quand même.
Oui, c'est...
Parce qu'on ne respire pas de la même manière à 6000 mètres déjà que sur le plancher des vaches.
Non, c'est pas exactement
la même chose. Et plonger, c'est une autre histoire encore.
Je dirais que c'est l'histoire de ma vie de me trouver en tenue de plongée en haut d'une montagne de 6000 mètres.
Ouais.
C'est à la fois les contradictions, mais mine de rien, quand même se donner les moyens d'obtenir ce qu'on est parti chercher. Mais pour répondre à votre question, quand on est bien acclimaté à l'altitude, c'est peut-être une réponse personnelle que je vais faire là, ça va faire sourire certains auditeurs, mais c'est pas plus difficile de plonger en apnée, je dirais, à 6000 mètres d'altitude qu'à 2500. Le secret, c'est d'être bien adapté, bien acclimaté, et d'avoir une oxymétrie qui soit raisonnable. Parce que la grande différence quand vous plongez en apnée à la surface de la mer, c'est que vous pouvez vous permettre un petit peu des excès. C'est pas le genre de choses que vous pouvez vous permettre à 6000 mètres parce que la pression, elle est 48% de celle de la surface. Ça m'est arrivé une fois par accident, je l'ai pas fait exprès, mais je l'ai regretté, je l'ai vraiment regretté parce que il était midi, mais il faisait nuit en plein jour.
Ouais.
Avec beaucoup d'étoiles.
Ouais.
Mais,
donc il y avait un risque réel. Là
oui, il y avait un risque réel. Donc l'apnée, je l'ai fait au début parce que je n'étais pas à l'aise tellement avec des bouteilles. Mais je me suis rendu vite compte que même ayant une bonne capacité respiratoire, pour justement éviter de ressortir avec peu d'air dans les poumons, on est obligé de ressortir plus vite.
Ouais.
Et ça ne me permettait pas de documenter ce que je voulais documenter.
Alors voilà, parce que là on parle de science quand même.
Hein. On parle de science, je ne suis pas allée là pour faire du tourisme.
Hein. C'est ça exactement. Donc vous plongiez pour quoi exactement?
Je plongeais pour collecter des échantillons, pour essayer de comprendre quels sont les habitats que procurent ces lacs qui sont dans des conditions martiennes, qu'on connaît environ entre 3,8 et 3,5 milliards d'années. Quels sont les habitats qui existent? Quelles sont leurs signatures de ces habitats minéralogiques, géologiques, sédimentaires? Et surtout, quels sont les micro-organismes qui peuvent survivre? Et tâcher de comprendre quelles sont leurs capacités d'adaptation. Mmh. Et on a appris tout ça. Mais au début, je l'ai fait donc en apnée. Et puis ensuite, on a réalisé cette grande plongée en 2006 avec des recycleurs, avec l'aide de Dominique Soumian, qui était le chef plongeur de Cousteau, qui nous a beaucoup aidés.
Mais vous auriez pu envoyer des appareils pour
place. Non, c'est beaucoup trop compliqué, puis c'est beaucoup moins drôle.
Oh ben ça, j'imagine. Ouais. vous avez plongé à quelle profondeur?
Le lac lui-même n'est pas tellement profond. Il ne fait pas tout à fait 6 mètres.
Ouais.
Il était beaucoup plus profond il y a quelques années, et on a eu de la chance encore parce que les années qui ont précédé notre plongée, il continuait de s'abaisser, et l'année où on est venu, il était remonté quand même. Donc on a fait cette traversée et on l'a fait à l'oxygène.
Et vous avez ramené quoi alors à la surface de ce lac ?
On a ramené des échantillons, on prenait des échantillons de sédiments, des échantillons aussi de micro-organismes que nous avons trouvés, qui se protégeaient de manière très intéressante. Le fond du lac du Licancabourg est à peu près aussi rouge que vos autocollants du France Inter. Inter.
Ouais,
et il y a une bonne raison pour ça. Quand vous allez au soleil, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous mettez de la crème solaire, et bien c'est leur crème solaire, ils produisent des pigments. Pour nous, c'est terriblement important, parce que la Terre primitive et Mars originellement n'ont pas d'ozone. Ce qui veut dire que les ultraviolets arrivent directement à la surface, enfin en tout cas les longueurs d'onde courtes, et qu'il va falloir aux organismes, s'ils sont à la surface, qu'ils se protègent contre ces rayonnements ultraviolets. Et ils vont faire comme ce qu'on voit dans le désert d'Atacama ou dans les Andes, c'est-à-dire produire des pigments, et ces pigments laissent des traces dans les roches.
Et c'était aussi une documentation scientifique nouvelle, parce que personne n'avait eu l'idée de plonger comme ça dans des lacs comme vous ?
Scientifiquement, à cette époque-là, non. Ouais. Il y a quelqu'un qui l'avait fait et qui m'a inspiré, et qui est Nicolas Hulot, qui s'est promené au travers du désert d'Atacama et qui a vu le Licancabourg. Et une des dernières images de cette expédition, en tout cas documentaire, je dirais, c'est Nicolas Hulot plongeant dans le lac du Licancabourg. En fait, il n'était pas le premier. Johann Reinhardt avait fait ça pour de l'archéologie. Lui était venu parce qu'il y a beaucoup de momies et de sites incas qui se trouvent dans ces sites. Le Licancabourg est un site sacré. Et donc, des archéologues sont venus, et Johann avait fait ça. Il y a ensuite deux Britanniques qui ont fait ça pour, égaler un record du monde. Et ensuite, je suis arrivée avec mon équipe. Personne ne l'avait fait en apnée, mais ça, je le savais pas à l'époque. Ce qui m'intéressait, c'était les échantillons. Le reste, c'est venu avec.
Voyage aux frontières de la vie, Nathalie Cabrol, l'invitée de la Terre au carré.
La Terre au carré.
Nathalie Cabrol, encore quelques minutes ensemble pour parler de votre carrière d'astrobiologiste, vous qui publiez Voyage aux frontières de la vie aux éditions du Seuil. Alors il y a un autre aspect, on parlait de ce lac volcanique dans le désert d'Atacama qui est extrêmement important, c'est l'étude du réchauffement climatique. Elle vous dit d'ailleurs que les lacs sont les marqueurs les plus importants du réchauffement climatique ?
Les lacs sont des sentinelles.
Ouais.
Ils sont véritablement des sentinelles du changement climatique parce que les processus qui se produisent dans ces lacs à plus ou moins long terme, vont se produire sur des étendues d'eau plus grandes, comme les océans. On commence à avoir aujourd'hui des problèmes avec la vitesse des courants dans les océans, parce que leur température change. On voit aussi des changements dans l'oxygénation des océans. Tout ça, c'est des choses qu'on a observées dans les lacs il y a quelques années déjà et qui continuent de se produire à l'heure actuelle.
Nathalie Cabrol, vous avez vu les changements. Vous parlez de roches qui ont évolué en quelques années.
Il y a des sédiments qui évoluent en quelques années. Si vous avez plus ou moins d'eau, vous allez avoir différents sédiments qui vont venir du bassin versant. Et c'est ce qu'on voit. Il y a beaucoup d'incertitudes sur la quantité d'eau qui tombe dans l'altiplano. Désormais, c'est pas quelque chose... Il y a des variations interannuelles très, très importantes.
Ouais.
Si vous avez peu d'eau, vous allez avoir des sédiments qui sont plus fins, qui vont être transportés. Tandis que si vous avez des gros ruissellements, vous avez vu les catastrophes des pluies diluviennes, ça peut transporter des gros rochers. Tandis que là, on en est au point où c'est vraiment peu de choses qui est transportée. Donc, vous avez une augmentation du taux de salinité, vous avez un changement de la chimie du lac. Et bien évidemment, quand la chimie change, l'écosystème pour les micro-organismes qui vivent à l'intérieur va changer. Et dans ce cas, vous avez une grande perte de la biodiversité, c'est-à-dire de la diversité des espèces qui vivent dans le lac. Et on a une grosse perte à ce degré-là. Ce qui fait que, par exemple, au Likankabur, vous avez la vie, elle est partout, vous la voyez. C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée quand je suis rentrée dans l'eau la première fois, c'est qu'il y avait une quantité invraisemblable même de zooplancton. Mais pour ne parler que de la population bactérienne du lac, elle est importante, mais elle n'est pas diverse. On a 36% de la population totale du lac qui est représentée par 3 espèces seulement. Mmh.
Et donc, le réchauffement climatique, c'est un sujet de recherche pour vous aujourd'hui?
C'est un énorme sujet de recherche et un sujet pour lequel la recherche et l'exploration planétaire et spatiale peut apporter beaucoup de soutien à la surveillance.
Ouais. Vous parlez de voyage martien. Alors, vous dites, évidemment, probablement que je n'irai jamais sur Mars, mais ce sera probablement le destin des hommes, quand on ne sait pas vraiment. Mais aller coloniser Mars, finalement, ça a quel but en soi? Enfin, quel est le sens d'une telle exploration?
Je pense que c'est quelque chose qui est en nous, que ce soit Mars ou que ce soit ailleurs. La vie...
C'est d'aller toujours sur de nouveaux territoires?
Voilà, la vie elle-même, c'est ancré en nous comme un outil de sauvegarde, d'adaptation. C'est, imaginez, une expression toute simple, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Et en imaginant une catastrophe d'environnement, si vous n'êtes capable de survivre que dans un seul environnement, eh bien, vous disparaissez. C'est ce que la vie a fait tout au long de son évolution sur Terre. Elle s'est adaptée, elle a colonisé les territoires au fur et à mesure, elle s'est dispersée. Et ça, c'est en nous. C'est génétiquement ancré parce que nous sommes les descendants de cette vie primitive sur Terre. C'est le même principe qui aujourd'hui nous pousse à aller sur Mars. Consciemment ou inconsciemment, on peut vous donner des tas de raisons. Aujourd'hui, on vous dit, il faut aller sur Mars. Il y en a qui sont très mauvaises de ces raisons. Je veux pas entendre dire qu'on va sur Mars parce que ça va résoudre tous les problèmes de la Terre. C'est complètement faux. Mais ceci étant dit, il y a une véritable raison pour laquelle on ira sur Mars.
Laquelle,
et qu'un jour, c'est celle qui est en nous. C'est ce qui est la vie qui pousse à diversifier son environnement. Et ça, certainement, aller sur Mars, c'est une certitude, à moins qu'on disparaisse avant. C'est une certitude, je dirais qu'il y a
À quelle échelle?
De temps, je dirais que d'une manière raisonnable, 30 à 50 ans.
Ah vraiment? Ça semble
si,
largement...
Y a, c'est une source d'exploration, c'est un endroit merveilleux à explorer.
Mais ce sera difficile quand
même. Mais pour le moment, on n'est pas encore préparé. Ouais. Et personnellement, je ne pense pas qu'il y a d'urgence.
Voilà, la boucle est bouclée, pour rebondir sur le titre de votre livre « Voyage aux frontières de la vie ». Nathalie Cabrol, c'est publié au Seuil et je vous souhaite un très bon retour aux États-Unis.
Merci.
Merci d'être venu nous parler de cet ouvrage. Au revoir. À demain, Camille Cronier.
Très bon après-midi à tous et à toutes. Et je vous rappelle qu'il y a toujours le répondeur de la Terre au Carré, ouvert 24 heures sur 24. Vous laissez les messages que vous voulez en parlant d'environnement, coup de gueule, coup de cœur. Vous pouvez aussi nous faire écouter des petites choses qui se passent autour de chez vous. Le numéro téléphone
01 56 40 45 45. À bientôt.